bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de commencer avec vous cette nouvelle semaine du mois de juin. Une pensée pour les élèves de terminale qui planchent ce matin sur l'épreuve de philosophie. Qu'ils se rassurent et que leurs parents se rassurent. L'épreuve de philosophie est difficile, mais faisable, sans super pouvoir ni courage surhumain. Car pour réussir, nul besoin d'être un héros, ni une héroïne, mais de savoir poser et formuler les bonnes questions. Alors à quoi servent les héros aujourd'hui? En voilà une bonne question. D'Ulysse à Arnaud Beltrame, de Cyrano de Bergerac à Mamoudou Gassama, a-t-on besoin de héros pour survivre? La réponse de Tina Turner. Bonjour Pierre Judet de la Combe.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous qui connaissez Homère comme personne, qui traduisait les textes d'Homère, qui lui avait consacré plusieurs livres, pensez-vous comme Tina Turner que nous n'avons plus besoin de héros? Ou est-ce que la lecture de Homère nous apprend qu'on a besoin d'un autre type de héros?
Alors peut-être qu'on a besoin de vrais héros, pas de ceux qui se proclament héros. Mais
quelle différence?
Dire que souvent ceux qui se proclament héros, je veux dire, ils invoquent le destin. Ils disent que c'est le destin, c'est-à-dire l'État, le marché, etc., l'État du monde qui les a placés là. Je crois qu'on a besoin de gens simplement qui ouvrent les yeux et qui suivent leur volonté, qui surtout n'aient pas peur. Voilà, ça c'est quoi. Et qui ne se disent pas j'obéis à l'ordre du monde. Ça, je crois que c'est ça. Ce serait ça, là, des héros vraiment qui lâchent les amarres et qui partent en aventure, que ce soit sur les mers ou pour dans quelconque entreprise intellectuelle ou autre, physique, tout ce qu'on veut, mais voilà, des gens qui n'aient pas peur et qui nous fassent vraiment rêver, et pas simplement qui disent « je suis un héros parce que les dieux, c'est-à-dire le marché, le capital, etc., me l'ont ordonné », ou l'école, ou mon classement à un concours, ou le baccalauréat, par exemple.
La définition du héros comme celui qui n'a pas peur, qui ne manque pas de courage pour affronter la mer ou l'épreuve du baccalauréat, est-ce que c'est une définition qu'on trouve chez Homère?
Oui, parce qu'il s'agit il s'agit aussi d'accepter d'avoir peur. Ouais. C'est-à-dire d'accepter de se mettre dans la position où tout est ouvert. On ne sait pas ce que les dieux ont décidé, parce que les Grecs pensaient vraiment que leur vie dépendait de ce que les dieux allaient faire, avaient décidé dans leur dos. Et donc, c'est savoir s'ouvrir à cette possibilité du néant, possibilité de la mort. C'est pas du tout la recherche de la mort héroïque, ça on en parlera, ça c'est pas du tout une idée grecque. C'est vraiment d'agir le mieux qu'on peut, en sachant que nous sommes des êtres finis, que nous ne sommes pas des dieux, même les demi-dieux ne sont pas des dieux, justement, et qu'après la mort, il n'y a rien. Après la mort, on est une ombre errante, nostalgique, mélancolique, on est rien. Sauf les quelques-uns qui sont donc aux Champs-Élysées, donc chez les bienheureux, mais ça, c'est très peu. Donc c'est accepter le risque en se disant que nous sommes finis, mais on a un tout petit espace pour affirmer quelque chose comme une volonté. C'est pas plus. C'est pas grandiose, quoi. Mais c'est comme ça, c'est en acceptant la mortalité, parce que la mort que l'on donne, beaucoup, ça dans Homère on n'arrête pas, ou que l'on reçoit, donc faut apprendre à la recevoir. C'est paradoxalement en étant dans ce va-et-vient entre du risque qu'on se rapproche des dieux. C'est ça la grande idée des Grecs, c'est qu'on est presque divin, on est semblable aux dieux, comme Homère n'arrête pas de le dire de ses grands héros, quand on est au bord de la mort, quoi.
Ça veut dire que le héros s'oppose en tout point au super-héros. Le héros, c'est celui qui meurt.
Voilà, le héros est celui qui meurt. Il n'y a pas il y a des super-héros. Si, il y a des gens comme Héraclès, etc., ou Achille qui court très très vite. Alors là, il y a plusieurs légendes. Pourquoi court-il si vite?
Mais il est mortel.
Mais il est mortel, bien que fils d'une déesse. Donc, et même Héraclès, qui va devenir dieu, il doit accepter de mourir. Donc, et sa mort était particulièrement atroce sur un bûcher. Je veux dire, donc, il y a cette idée que les dieux, ont fait que les êtres humains sont presque rien. Comme disent Hésiode, les dieux leur ont enlevé la vie. La vie, ils doivent la trouver. Alors Hésiode pense que c'est pas en allant batailler à gauche, à droite, en faisant des massacres comme les Grecs faisaient, et encore à l'époque de Périclès, etc. Non, pour Hésiode, c'était le vrai héros, celui qui faisait l'exploit. Pour dire exploit, c'est le mot ergon, qui est le même mot que action, et c'est le même mot que travail, en fait. Le vrai héros, c'est celui qui cultive son champ.
Mais alors pour Hésiode, il faut dire que les héros sont une race. Alors, dans voilà. Les travaux et les jours, donc c'est 8e siècle avant le début de notre ère, il distingue quatre races, l'âge de bronze et l'âge des héros.
L'âge des héros ou l'âge des demi-dieux. Alors le mot héros en grec, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Donc ça, c'est plutôt un titre de noblesse, de respect. Ça, quelques dieux pouvaient être dits héros, mais en général, ce sont les morts, les grands morts. Et donc, il y avait des cultes rendus aux héros, et il fallait surtout, pour une ville, récupérer les ossements d'un héros, comme Thésée pour Athènes, comme ça. Donc, et puis on voit dans Sophocle, autour d'Oedipe, on se bat pour avoir le cadavre d'Oedipe, sauf qu'il disparaît, lui. Et donc les héros, c'était d'abord un culte des morts. Et dans la poésie d'Homère, là, c'est tout à fait différent. C'est pas une poésie locale, il y a des cultes, c'est une poésie pour toute la Grèce. Et là, il est presque pas question du culte des morts. Mmh. Mais c'est vrai que les héros, donc, ce sont d'abord des mortels. Et donc, mais qui connaissent une forme d'apothéose par leurs actes. Parce que après, il y a plus rien. Alors, il y a eu des croyances grecques avec Orphée, etc., disant qu'après la mort, il y a une vie, il y a une réincarnation, etc. Il y a eu ce courant-là de type, on peut dire, indien en Grèce. Mais là, dans la religion normale, après la mort, on n'est rien. On est une ombre aux enfers et on pleure, on est triste, quoi. Mais je veux dire, donc, il n'y a pas de salut. Ça, c'est vraiment, c'est la grande, grande différence avec les héros des religions monothéistes. Il n'y a aucune promesse de Dieu. C'est-à-dire
que. Donc, il n'y a pas de martyr.
Il n'y a pas de martyr. Alors, non, justement, le martyr, c'est un mot grec, ça veut dire témoin, mais on ne peut pas témoigner du fait que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et a promis à l'humanité quelque chose de mieux, après une destruction, évidemment, après l'apocalypse, quand il y aura ou le retour du Messie, ou le Messie, etc. Donc, tout ce qui fait que pour nous, spontanément, le temps de l'histoire est orienté. On croit au progrès. Par exemple, on dit l'avenir peut nous réserver du meilleur, même si parfois certains pensent qu'il faut passer par le plus grand malheur, la grande catastrophe. Pour un Grec, pas. Là, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'histoire. Voilà, on gère le temps comme on peut. Et ceux qui ont su être arrivés à une forme de perfection humaine qui nous est interdite désormais, ce sont les héros du passé. Et comme dit Hésiode, la race des héros, c'est-à-dire les Achille, Hector, Oedipe, etc., c'est une race définitivement close, c'est-à-dire que cette race suppose que les dieux et les déesses puissent avoir des enfants avec les mortels. Et c'est fini.
Donc même au tout début de ce qu'on appelle l'Antiquité, l'âge des héros était déjà terminé.
Ah oui, c'est l'Antiquité.
Donc pourquoi on arrive vraiment très longtemps après.
C'était d'abord historiquement, c'était effectivement quelques siècles avant. Je veux dire, ils avaient des ruines de ça, de l'époque mycénienne, qui comprenaient pas bien tout ça. Donc pour eux, c'était déjà l'Antiquité. Les héros, c'est déjà fini. Et on peut essayer d'imiter les héros, alors ou bien par des actions guerrières. Alors, et là, les Grecs, après, donc 5e siècle, se partageaient. Il y a ceux qui disaient, c'est fini, c'est complètement fini. Et d'autres qui disaient, mais non, quelqu'un qui a gagné une course aux Jeux Olympiques, eh bien, en fait, il ressemble au héros. Mais simplement, c'était un peu casse-gueule, si j'ose dire. C'est-à-dire, il devait être vraiment à la hauteur de son modèle. Et Pindare dit, comme ça, un sportif plutôt, à celui qui l'a commandité, « Deviens ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce héros que tu veux imiter. » Mais c'est pas sûr que tu le sois. Alors pour d'autres, comme la tragédie, ou pour Homère, Hésiode, dans l'âge des héros, c'est définitivement clos. Mais ce sont comme des modèles, c'est-à-dire ce sont les existences humaines portées à leur perfection la plus grande en tant qu'existence mortelle. Et c'est ça les héros.
Le héros serait celui qui tend vers la perfection humaine.
C'est la perfection humaine qui est toujours une perception finie, décevante, parce qu'il y a toujours la mort qui est horrible. Ouais. La mort n'est pas belle. La mort, ce qui doit rester beau, c'est le cadavre, qu'on ne doit pas humilier, mutiler, parce qu'il faut que le cadavre du héros grec mort, soit à la hauteur de ce qu'il a été.
Contrairement à ce qui se passera à la fin de l'Iliade, quand le corps d'Hector sera traîné derrière un char.
Voilà, c'est que Achille veut l'humilier, veut le détruire, et les dieux sont furieux contre ça et le protègent, rendent de certaines manières son cadavre immortel. immortels, ce qui est une contradiction, mais de manière qu'ils ne pourrissent pas, qu'ils ne soient pas détruits. Mais je veux dire, c'est l'idée de mort. Et c'est pas comme en Égypte où il y a la vie après la mort, ou là, donc tout ça, ça pour les Grecs, ça compte pas tellement. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le court temps, ce qu'ils appellent le bios, c'est-à-dire la vie qu'on doit mener par ses actions. C'est le court temps que l'on a à vivre. Et là, il faut que ça reste dans les mémoires. Alors, il y a deux moyens. Ou bien on fait des enfants, bon, pas mal. Ou bien on fait des actions extraordinaires. Alors, ça peut être la guerre, mais c'est aussi, par exemple, Homère lui-même est devenu un héros. Les poètes recevaient un culte. Archiloque, Hésiode, Sophocle recevaient un culte. Donc, on est héroïsé par ce qu'on a fait. C'est ça qui compte, mais on sait qu'on a toujours, on est sur le bord de la mort en permanence, quoi.
Donc, on rend un culte aux héros comme on rend un culte aux dieux?
Oui, c'est-à-dire que même pour ça que le mot héros pouvait s'appliquer à des dieux mineurs, donc parfois pas distinguer des daimones et démons. Je veux dire, la présence du héros, même la présence physique du héros, était vitale pour faire que une cité se sente véritablement cité. Comme on voit dans les Perses, alors là c'est extraordinaire, d'Eschyle, donc il y a un grand cri de l'armée perse, il faut sauver les femmes, les enfants, les hommes, évidemment, enfin les hommes peuvent mourir, mais il faut aussi sauver les temples et les tombes des anciens. Et donc, c'est-à-dire des héros. C'est-à-dire qu'il faut que les grands morts aient leur terre. Mais pour ça, on fait des actions qui sont complètement modernes, si j'ose dire.
Alors, on va essayer de les écouter ensemble, Pierre Judet de Lacombe. On va prendre un exemple, un personnage. Enfin, on va en prendre beaucoup au cours de cette émission, mais commençons par l'un d'entre eux. Dans l'Iliade, au chant 16 de l'Iliade de Homère, on trouve ce personnage qui s'appelle Patrocle, à qui Achille a donné des armes pour aller repousser les Troyens. Et Patrocle va être aveuglé par sa colère et décidé de prendre Troie plutôt que de repousser les Troyens. Écoutons le texte et puis vous nous direz ensuite en quel sens Patrocle est un héros ou pas. Le texte est lu par Nicole Garcia.
Patrocle, qui excitait ses chevaux et Automédon, pourchassait Troyens et Lyciens. Il était entré en grande folie. L'idiot. S'il avait sauvegardé l'ordre du fils de Pélée, il aurait échappé au mauvais démon de la mort noire. Mais l'esprit de Zeus, toujours, est plus puissant que celui d'un homme. Il met en déroute un homme vaillant et lui enlève la victoire. Facilement. À d'autres moments, il encourage lui-même à combattre. Et cette fois-ci, il mit l'ardeur dans sa poitrine. Là, qui as-tu massacré en premier? Qui en dernier? Patrocle, en ce moment où les dieux te convoquèrent à la mort. Adrastos en premier et Autonoos, et Kéklos, Périmos, fils de Mégas, et Épistor, et Mélanippe, ensuite Elasos, et Moulios, et Pilartès. Ceux-là, il les prit, les autres, tous, pensaient à la fuite. Là, les fils des Achéens auraient pris Troie aux portes hautes, sous les coups de Patrocle, car avec sa lance, il se jetait de tous côtés en avant, si Apollon Phoïbos ne s'était dressé sur la tour bien construite, avec des pensées de mort pour lui, et en secours des Troyens. Trois fois, il posa le pied sur un angle du haut mur, Patrocle. Trois fois, Apollon le cogna en arrière. De ses mains immortelles, il battait le bouclier lumineux. Mais quand une quatrième fois il s'élança, égal à un dieu, il lui cria dessus, lui adressant des paroles ailées. Recule, Patrocle, né de Zeus. Aucun destin ne fera que la ville des Troyens fastueux soit ravagée par ta lance, ou par celle d'Achille, qui pourtant est bien meilleure que toi. Il dit cela, et Patrocle recula loin en arrière, pour éviter la colère d'Apollon, le frappeur de loin.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h15, nous parlons d'héroïsme cette semaine sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, d'héroïsme, de héros et d'héroïne également, chez Homère et dans les textes antiques, en compagnie de Pierre Judet de Lacombe. Le texte que l'on vient d'entendre est le récit, on pourrait dire, de l'échec de Patrocle. Il échoue car il est en colère, ce qui est le signe pour lui qui n'est pas un dieu, ni peut-être même un héros, d'une imperfection.
Oui, c'est-à-dire que Patrocle, dont le nom veut dire la gloire du père. C'est-à-dire, donc c'est intéressant, c'est pas sa gloire vient de ce qu'en fait il essaie d'être à la hauteur de son père.
Qui est son père, d'être présenté
Ménécée, nous, Patrocle. Ménécée, oui. Donc qui est un héros, donc qui a bon, qui, je sais plus très bien ce qu'il avait là, j'ai oublié. Et lui, donc c'est donc il a la gloire par là, mais c'est vrai qu'après il va te tuer de manière assez ignoble, c'est-à-dire que Apollon va le taper dans le dos et ses armes vont tomber, etc. La mort de Patrocle n'est pas une belle mort, c'est-à-dire qu'il y a les fourbes, les dieux trichent, etc. Bon, un peu aussi comme pour la mort d'Hector d'ailleurs. Ça, c'est pas le point. Donc là, il n'est pas héroïque en ça, il est héroïque au sens où on est au moment où les Troyens sont en train de gagner, parce que Zeus a décidé d'aider les Troyens, car les Grecs ont humilié Achille. Mmh. Donc il va pousser les Troyens jusqu'à mettre le feu à un bateau grec. Et à ce moment-là, Patrocle, avec les armes d'Achille, va repousser les Troyens. Et Achille lui dit, tu dois repousser les Troyens hors du camp, mais ne pas aller plus loin. Tu ne dois pas essayer de prendre Troie. Or, Patrocle est victorieux. Pourquoi ? Parce que Zeus aussi avait décidé que ça suffisait maintenant et qu'il fallait que les Grecs entament tout le chemin vers la victoire finale, c'est-à-dire la prise de Troie. Mais pas par Patrocle, surtout pas, ni par Achille. Achille va mourir avant. Et donc Patrocle chasse les Troyens hors du camp. Il tue Sarpédon, le fils de Zeus même, donc c'est une victoire extraordinaire. Et là, il est pris par une forme de folie. Zeus lui a enlevé l'esprit. Il pense qu'il est le héros qui peut prendre Troie, alors même que Achille lui avait dit de ne pas tenter de le faire. Et ça, c'est un moment où donc on voit la raison est défaite chez un homme. À cause de Dieu, mais aussi à cause de ses actes. Au début, il y a tous ces massacres, il aligne victoire sur victoire. Et donc, c'est une énergie, en grec, c'est thumos, c'est la chaleur du sang, c'est l'ardeur, qui fait qu'il n'y a pas de limite. Et la seule limite, c'est le mur de Troie. Donc, il s'arrête, et là, Apollon, c'est le dieu qui réalise la volonté de Zeus. Donc, volonté de Zeus qui est mise au départ, et c'est un archer. C'est intéressant, c'est-à-dire que justement, il est frappeur de loin. Il va pas aller combattre directement les héros comme Arès peut le faire. Lui, il va, donc, de loin, il réalise la volonté de Zeus. Et là, Patrocle, c'est vraiment la folie. D'ailleurs, le poète le traite d'idiot. Donc c'était comme un petit enfant, Népios. Donc il a pas compris que c'était sa destruction. Mais c'est là où c'est complexe, c'est que Zeus a besoin d'abord donc de la victoire des Troyens, c'est vraiment dialectique comme dirait l'autre. Ensuite, il a besoin de cette victoire de Patrocle dans les armes d'Achille. Il a besoin de la mort de Patrocle, tué comme ça de manière assez ignoble par Apollon en fait. Pourquoi ? Parce que Achille sera tellement triste de la mort de son ami Patrocle, l'ami le plus proche, que à ce moment-là, Achille va arrêter sa propre colère. Sa fameuse manie, sa colère destructrice, qui est un scandale inouï.
Qui ouvre l'Iliade. L'Iliade commence avec la colère d'Achille.
Voilà, c'est la colère d'Achille qui crée des milliers de morts qui sont laissés sans sépulture. Donc, quelque chose, c'est une impiété inouïe. C'est vraiment, comme on dit, l'anomie. C'est-à-dire, c'est le désordre total. Et le paradoxe, c'est que Zeus a voulu ça. Donc ça, le Zeus, c'est le dieu de l'ordre qui veut un désordre, même une impiété. Donc ça, c'est le paradoxe sur lequel commence l'Iliade. Et en fait, il faut qu'il y ait d'abord cette colère pour que donc que les Troyens gagnent, que Patrocle soit tué, et ensuite Achille, qui est le seul héros qui pourra véritablement défaire les Troyens en tuant Hector, cesse sa colère, ou plutôt dirige sa colère comme rage contre Hector. Pour venger Patrocle, parce qu'à la fin, c'est le coup final, le coup de grâce est donné par Hector contre Patrocle. Et comme ça, les Grecs, une fois débarrassés d'Hector, pourront prendre Troie. Mais là, c'est vraiment personnage contre personnage. Patrocle est le double d'Achille dans ses armes, pense qu'il peut faire comme Achille, mais non.
Et Patrocle a-t-il des pouvoirs comme Achille?
Non, il a aucun pouvoir. Simplement, il est extrêmement bon guerrier, quoi. Donc oui, il est comment? Il a l'entraînement, mais je veux dire, non, il a aucun pouvoir. Il n'est pas qualifié par des qualités, disons physiques. Il n'est pas comme Achille qui est donc bon à la course. Ça, c'est Achille, c'est celui qui court plus vite que tout le monde et donc il peut courir plus vite qu'un fleuve, il peut courir plus vite qu'Hector.
Mais Achille est le fils d'une déesse.
Donc en ce sens, il est. Alors c'est tout à fait surprenant. C'est-à-dire que Achille qui aurait pu être le fils de Zeus, puisque Zeus, enfin, a appris que Thétis, donc la mère d'Achille, devait engendrer un fils plus fort que son père. Donc, c'est dit pas bon. Il a arrêté son désir et il a donné Thétis à un mortel, donc il a violé en fait Pélée, et c'est cela qui a donné Achille. Donc Achille aurait pu être son fils. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien spécial entre Achille et Zeus. Mais Achille, on peut dire, c'est l'hypermortel. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Il est excessif dans la violence, dans les exploits, dans la course. Il massacre indéfiniment. Bon, ça, c'est pas très sympathique, mais c'est vraiment comme ça que c'est la vie positive au sens où il agit. Et en même temps, il peut subir le deuil le plus grand et il n'arrête pas de pleurer. Donc, et là, Hélène Monsacré a fait un livre sur ça qui a un peu renversé l'idée d'héroïsme, les larmes d'Achille, en montrant que ses héros pleuraient. Et du coup, on les compare à des femmes. Donc, ou à des fillettes. Parce que le moindre affront fait que le monde s'effondre. Et Achille peut être pris dans un deuil gigantesque parce qu'on le déshonore, parce que Agamemnon lui a pris sa captive, et après avec la mort de Patrocle. Et c'est ce qui rend Achille véritablement unique, et ça je crois que c'est un point pour comprendre ces héros, c'est qu'il peut passer par les états les plus extrêmes. Donc du désespoir le plus grand, à la générosité la plus grande, quand il rend à Priam le corps de son fils Hector, qu'il a tué, qu'il a voulu mutiler, ou au contraire, la cruauté la plus grande, quand il massacre. Bon, et il massacre quand même sur le tombeau de bûcher de Patrocle, il massacre 12 princes troyens. Donc, bon, mais les Grecs faisaient aussi, au 5e siècle, ils faisaient des sacrifices humains, ça c'est pas, bon, c'était pas des doux. Je veux dire, donc Achille, c'est vraiment l'être humain qui, plus qu'Hector, par exemple, et donc plus que Patrocle, passe par tous les sommets, les formes d'existence les plus basses d'une certaine manière, et il est unique. C'est-à-dire que, et c'est ça, je crois, qui est important, c'est que les héros, qu'en plus, après, bon, tout des tas d'idéologies les ont idéalisé, les héros, mais pour un ancien, un héros, c'était celui qui est d'abord fonctionnel, un roi, un très bon guerrier, éventuellement le meilleur des Achéens, le plus fort, etc. Il est brave, il sait bien mourir. Pour ça que l'Iliade raconte toutes ses blessures et ses morts. Bon, à traduire, c'est un peu pénible quand même.
Ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas?
Ce que je suis en train de faire, parce qu'il faut apprendre à tuer et à se faire tuer. Ça, c'était des guerriers. Donc ça, il faut... L'épopée a aussi cette générosité de donner aux gens, disons, un symbole de toutes les expériences, même les plus dures qu'ils pourront avoir à la guerre.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'héroïsme sans guerre?
Alors, si, parce qu'il y a des héros. Un héros, par exemple, il y en a un qui s'appelle Admète, il est héros, pourquoi? Parce qu'il a su accueillir Apollon chez lui. Apollon était réduit...
Donc l'héroïsme est aussi le signe d'une vertu morale.
Alors, c'est une vertu morale, c'est une vertu d'accueil, c'est une vertu de, comment dire, de très grande générosité. C'est-à-dire que c'était pas des petits bourgeois. C'est-à-dire que quand on a un bien, il y a un éclat, on en fait profiter. Apollon, qui était réduit en état de quasi-esclavage chez cet Admète, qui était le mari d'Alcès, lui dit, je te donne comme privilège qu'à ta morte, quand tu devras mourir, tu pourras te faire remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, le vieux père veut pas, finalement c'est sa femme, Alceste. Bon, passons. Et donc, le héros, c'est une manière, pour un grec, comment on peut passer d'état fonctionnel, c'est-à-dire un bon roi, un bon guerrier, etc., à un état d'exception, un état de singularité. Et donc, et c'est ça qui fait mémoire, parce que les héros, il faut les raconter. Alors, ça peut être dans des cultes autour de tombes, mais ça peut être aussi l'épopée. Et il faut laisser... Et c'est donc laisser un souvenir, il faut avoir accompli un acte extraordinaire. Donc c'est pas le fait, comme on dit, l'héroïne, c'est pas donner sa vie pour une cause. Ça, certainement pas. Ça, c'est vraiment pas grec. Si on peut dire que, quand il y a eu la cité, bon, plus moderne, on a créé la phalange, donc des groupes de guerriers, non pas héroïques, isolés, mais qui se battent en rang très serré, l'équivalent de ce que fait Achille, dans ce cas-là, c'est de savoir bien résister et prendre les coups. Donc, parce qu'on est solidaire de ses compagnons. Donc ça, c'est un peu plus tard, ça, on voit ça apparaître. Mais je veux dire, pour être héros, c'est bien remplir son bios, faire des actes de sa vie, dans sa vie, qui soient inoubliables.
Alors reste à savoir la place que l'on accorde à des vertus qui ne sont pas louées aujourd'hui, comme la colère par exemple, qui pourrait être le signe d'une faiblesse. Vous l'avez dit, les héros chez Homère et dans l'Iliade et même dans l'Odyssée pleurent, montrent et assument peut-être leur faiblesse. On a vu comment la colère de Patrocle a pu se retourner contre lui et lui nuire. Voici un autre chant de l'Iliade, le chant 24, le dernier, dans lequel cette fois-ci est raconter la colère de Achille qui traîne la dépouille d'Hector derrière son char, et on va voir en quel sens cette colère n'est peut-être pas le signe d'une absence d'héroïsme, bien au contraire.
Le concours fut levé et vers les vifs bateaux chacun des peuples alla se disperser. Tous pensaient au repas et au doux sommeil qui serait leur plaisir. Mais Achille pleurait au souvenir de son compagnon. et le sommeil ne le prenait pas, le maître tout-puissant. Mais il tournait, là, et là, en manque de Patrocle, de sa virilité et de sa belle rage, de tous les labeurs avec lui et des souffrances subies, traverser les combats des hommes et les vagues douloureuses. À son souvenir, il versait une éclosion de larmes, par moments couché sur le flanc, par moments au contraire, le dos renversé, par moments tête face au sol. Parfois dressé sur ses pieds, il allait, hors de lui, tourner le long des dunes de la mer. Jamais il ne laissait paraître une aurore sur la mer et le rivage sans qu'il attelle à son char les vifs chevaux. Il attachait Hector pour le traîner derrière le char, et l'ayant tiré trois fois autour de la tombe du fils mort de Ménécée, il s'arrêtait à nouveau dans sa baraque et l'abandonnait, étendu dans la poussière, la tête face au sol. Mais Apollon écartait toute indignité de son corps, pris de pitié pour l'homme, même mort. Il le couvrait tout entier de l'égide, d'or, afin qu'il ne le déchire pas en le traînant. Ainsi, de rage, il traitait indignement l'éclatant Hector. À regarder cela, les dieux bienheureux étaient pris de pitié. Il poussait le tueur d'Argos, bon viseur, à le lui dérober. Là était ce qui plaisait à tous, sauf à Héra, sauf à Poséidon et à la fille aux yeux de lumière.
Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau et le plus pur des miroirs. La danse ou la cérémonie funèbre de Patrocle et puis le texte de Simone Veil sur la force comme sujet central de l'Iliade, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie en votre compagnie, Pierre Judet de la Combe. Deux choses, d'abord le récit de cette colère d'Achille, très, très étrange parce que très ambivalente, et puis le texte de Simone Veil qui semble dire que le vrai sujet c'est la force. Est-ce que ça veut dire aussi la colère? Est-ce que la colère est une forme de force?
Alors oui, alors ce texte de Simone Veil, que je trouve magnifique, donc juste avant la guerre, donc ce qui est important, c'est qu'elle dit la force c'est pas la violence, c'est pas un éloge de la violence comme faisaient les nazis, etc., contre qui elle écrit, c'est l'idée.
Parce qu'on est en 41 quand elle écrit
vraiment,
ce texte.
C'est vraiment là, on est dans
en pleine drame, Seconde Guerre mondiale,
dans la catastrophe, quoi. C'est-à-dire la force, elle a pris exprès un mot physique de la théorie physique. C'est la déshumanisation, c'est-à-dire elle dit bien quand l'âme se rétracte. Donc effectivement, même elle, quand elle parle de l'Iliade, elle parle de ces héros qui sont comme pétrifiés avant de recevoir le coup mortel. Donc ils sont déjà plus eux-mêmes. Et la guerre, c'est ça. Ça le rappelle. C'est pas simplement le déchaînement, etc. Donc c'est tout ça aussi, mais c'est cet état où de choséification, si on peut dire, des êtres humains. Et donc l'Iliade raconte ça étonnamment, parce que comme le dit Simone Veil, s'il s'agit de force, donc d'un problème de physique, il y a problème d'équilibre des forces, de rapport de force, et ça fait une bonne partie de l'Iliade, avec ces très longs duels, ces très longs... Voilà, on ne sait pas de quel côté ça va passer, donc ça, c'est vraiment une physique humaine, et donc de déshumanisation. Ça va exactement avec ce que dit Homère. Alors, et c'est vrai que Dans le passage qui a été lu là du début du chant 24, on voit alors que Hector est déjà tué, Achille essaye encore de le rendre, encore de le déshumaniser, c'est-à-dire de lui empêcher d'avoir cette immortalité des mortels qui est la tombe, qui est le culte qu'on peut rendre aux morts, et donc le cadavre. Et ça, c'est donc, il va encore plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a plusieurs sentiments, parce qu'il y a cette, c'est comme s'il continuait le duel, parce que quand il, avant de tuer Hector, il lui a dit, je refuse de jurer, de prêter serment que je te traiterai bien si je gagne. Donc il dit, je vais t'humilier. Bon, et c'est vraiment c'est l'infamie la plus grande qu'on puisse faire. Et il a ça, et c'est cette rage toujours à cause de Patrocle, et on voit que tout le rituel, ce qui s'appelle le concours, là, donc tous les jeux funèbres, ça n'apaise rien, la perte de Patrocle, alors qui n'est précisément pas, du domaine de la force. On est dans autre chose. Là, on est dans une forme d'intériorité. Il a perdu l'être le plus cher, et ce qui est frappant, c'est que, du coup, Achille se roule dans la poussière exactement comme il roule le cadavre d'Hector dans la poussière. C'est-à-dire qu'Achille est déjà mort. Et ça, c'est un coup de génie d'Iliade, de pas raconter la mort d'Achille, mais par la mort de Patrocle, Achille vivant sa propre mort. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment de la très très grande poésie, donc ce transfert. Et donc là, on a dans ce texte, on a tous ces sentiments différents, donc cette volonté de mener la force au-delà d'elle-même, c'est-à-dire au-delà de la mort, et les dieux, évidemment, peuvent pas, parce que qu'est-ce qui reste à un mortel? C'est son cadavre, c'est-à-dire que le cadavre, en tant qu'il pourra être le signe, donc dans une tombe, parce que pour dire tombe en grec, on dit sema, c'est un signe. Donc ce qui va rester après, ce qui fait qu'on pourra raconter les épopées. Et Achille veut casser ça. Et donc là, on a tout ce mélange de sentiments et la colère d'Achille. Alors c'est intéressant, là, c'est vraiment la colère à cause de Patrocle. Et qui s'est substitué à la colère qu'il avait au tout début, ce qui ouais. est bon, et que pour laquelle l'Iliade reprend le mot de manie, ce qui veut dire une forme de folie destructrice, c'est la possibilité d'écraser celui contre qui on est en colère, et donc qui a amené d'abord les Grecs à la défaite. Donc Achille passe par tous ces états, et là où donc on va aller au-delà de la force. C'est précisément dans ce déchaînement inouï de colère contre Hector. Pourquoi? Parce que cela va choquer les dieux. Et Zeus va dire à Thétis, va trouver ton fils et dis-lui d'arrêter. Et à peine Thétis dit ça à son fils, qu'immédiatement il arrête.
Est-ce que la colère d'Achille, à la fin de l'Iliade, dans le chant que nous avons entendu, grandit Achille ou au contraire?
Oui, alors ça le grandit. Parce que ça veut dire que c'est... Pourquoi ça le grandit? Parce qu'il cède aussi. C'est-à-dire que si Achille avait simplement continué, donc avait été... comme dit un grec, en grec, on dit « ut neta phronein », c'est-à-dire n'avait pas pensé phronein en termes mortels, c'est-à-dire il s'était pensé comme un dieu. S'il avait pensé ça, là il aurait été foudroyé, ça aurait été un des grands criminels, comme il y en a beaucoup dans la mythologie. Mais là, non, la force, son caractère exceptionnel d'Achille, c'est d'aller au plus haut possible dans l'indignité, donc dans le déshonneur rendu à Hector, et de changer à la seconde. Et ensuite, quand... Priam, le vieux Priam va venir la nuit, guidé par Hermès, donc le dieu fourbe des ombres, etc., guidé dans le camp grec pour réclamer le corps d'Hector, eh bien Achille va lui donner. Et là, on a une scène extraordinaire, c'est comme si on était hors du monde, dans les enfers, on sait pas où, enfin hors du monde de l'action, parce que juste après, Achille va mourir, et juste après encore, Troie va tomber, eh bien dans un monde de pacification, comme ça, où deux hommes en deuil... Achille à cause de Patrocle et Priam à cause d'Hector se reconnaissent et s'admirent, et de génération en génération. Plus ça, c'est absolument extraordinaire. C'est aussi un point totalement singulier. C'est-à-dire qu'il a fallu ce déchaînement inouï de violence pour arriver à cette réconciliation qui ne débouche en fait sur pas grand-chose. Achille va mourir, Hector donc aura droit à ses funérailles, mais ensuite tout ça va être ravagé. Donc on est sur fond de néant parce que c'est la fin de l'âge des héros. C'est-à-dire que la chute de Troie. Après le retour catastrophique des héros grecs chez eux, ça veut dire c'est la fin de cette époque. Donc c'est pas du tout une chose sombre, c'est pas du Wagner, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de dire, voilà, tout s'effondre. Non, c'est qu'au contraire, c'est un peu à la Héraclite. Plus ça s'effondre, plus on voit ce qui peut briller. Et donc, ce qui brille là, c'est cette entente inouïe du vieux Priam, qui a été têtu quand même, qui a pas voulu rendre Hélène, etc., donc qui est responsable en partie de la chute de sa ville, et donc de son propre massacre, qui sera ignoble, et Achille, donc le massacreur. Donc il faut passer par un extrême pour arriver à l'autre.
Il faut dire quand même que dans l'Iliade et dans l'Antiquité, les dieux aussi sont en colère, les dieux aussi sont têtus, qu'ils ont aussi tout ce que nous jugeons comme étant des défauts.
Zeus qui aimait Troie, qui aimait Hector, parce que Hector c'est l'homme le plus pieux, qui lui faisait les plus gros sacrifices, etc. Il pleure devant ce qu'il doit imposer. Non, les dieux sont pas du tout, sont comme les mortels, ils ont les mêmes sentiments, la jalousie, etc. Mais c'est eux qui font le monde.
Avant d'en arriver aux différentes figures héroïques héroïques de femmes que nous allons aborder ensemble, Pierre Judet de la Combe, une dernière visite à Achille qui, une fois qu'il est tué, se trouve aux enfers, et c'est Ulysse au chant 11 de l'Odyssée qui va lui rendre visite. Formidable talent de Homère que de donner la parole à ceux qui sont morts pour voir comment le récit de leur vie peut se faire en termes héroïques ou non.
Ô Achille, fils de Pélée, le plus brave des Achéens, je suis venu pour l'oracle de Tirésias afin qu'il m'apprenne comment je parviendrai dans l'âpre Ithaque, car je n'ai abordé ni l'Achaïe ni la terre de ma patrie, et j'ai toujours souffert. Mais toi, Achille, aucun des anciens hommes n'a été, ni aucun des hommes futurs ne sera plus heureux que toi. Vivant, nous, Achéens, nous t'honorions comme un dieu, et maintenant tu commandes à tous les morts. Tel que te voilà, et bien que mort, ne te plains pas, Achille. Je parlais ainsi, et il me répondit « Ne me parle point de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais mieux être un laboureur et servir pour un salaire, un homme pauvre et pouvant à peine se nourrir, que de commander à tous les morts qui ne sont plus. »
Merveilleuse mélancolie de ce chant lu par Michael Lonsdale, Pierre Judet de la Combe. On entend Achille qui est tellement humain qu'il se désole d'être mort. Il préférait être un pauvre laboureur encore vivant que le héros qu'il a été mais qui est mort.
Oui, parce que, comme après la mort, on n'est plus qu'une ombre, donc il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paradis, sauf pour quelques héros qui vont aux Champs-Élysées. Mais, je veux dire, on reste sur ce qu'on a été au moment de mourir. Et donc, Agamemnon, tué par sa femme, sera pour l'éternité pas content. Ajax, qui s'est suicidé parce qu'il est devenu fou, sera pas content. Et Achille sera dans la tristesse de... Malgré sa gloire, dire que la gloire c'est que du symbole, c'est pas la réalité. Reste qu'il a perdu Patrocle, qu'il est et qui maintenant il est rien. Il a beau être très puissant chez les morts, c'est rien. Et donc ça c'est vraiment une idée qui pour nous, tradition monothéiste, est très difficile à comprendre. Il y a pas de salut.
Oui, donc, mais est-ce que ça veut dire qu'il regrette d'avoir agi héroïquement ?
Oui, il regrette. Il dit qu'il aurait préféré être un ouvrier. Il y a un moment dans l'Iliade, d'ailleurs, un moment où ça va très très mal pour les Grecs, et on vient le supplier de reprendre les armes parce qu'il a arrêté de combattre, ayant été humilié par Agamemnon. Il dit non, je vais partir demain avec mon bateau, et puis mon père va me trouver une femme, etc. Donc là, il ne sait pas d'être un laboureur, mais d'être un prince. Mais il envisage la vie non héroïque. Ça, c'est toujours une possibilité. Et ce que fait Homère aussi, justement, c'est Ulysse qui pose ces questions. Ulysse, c'est contrairement à Achille, c'est non seulement la ruse, alors qu'Achille, c'est la force, etc. C'est le survivant. Et c'est celui qui saura tout perdre. Donc, il sera un moment nu sur une plage, on fait assis, il va arriver chez lui, il va même pas reconnaître son pays. Mais il va passer par tous les lieux, qui font sens, dont les enfers, justement. Et lui, il voit des gens qu'il n'aime, il voit sa mère, tout ça, mais il voit des gens qui n'ont pas eu son destin parce que ce sont des destins de mort. Et lui, c'est par définition l'homme de la fuite. L'homme qui saura échapper à tous les dangers qui normalement donnent la mort. Donc il sera plus fort que ça. Mais on le voit que c'est pourquoi? C'est quoi la fin d'Ulysse? C'est d'être un petit roi sur une petite île pauvre avec ses troupeaux et sa famille. C'est-à-dire que c'est tout à fait étonnant.
D'être un homme ordinaire plus qu'un héros.
Ce sera un homme, de la vie régulière. Donc, ouais. Donc il vivra heureux comme ça, et on se dit, il y a une phrase énigmatique, la mort va lui venir de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais est-ce que le personnage d'Ulysse ne nous apprend pas que l'héroïsme est aussi dans l'accord avec la vie dans ce qu'elle a de plus ordinaire?
Oui, non, parce qu'il s'agit de, parce que le problème, justement, c'est que il y a cet accord, mais ça, Homère n'en parle pas. C'est Hésiode qui va dire comment on vit comme un bon paysan. Je pense que Achille aurait voulu être. Mmh. Mais pour Homère, ce qui compte, c'est l'acte unique, l'acte singulier. C'est pas la vie régulière. Alors, et le paradoxe de l'Odyssée, donc le poème du retour, c'est aussi le poème où on quitte l'âge des héros, où Ulysse a été le grand vainqueur, parce que dans la tradition de l'Odyssée, c'est lui le vainqueur de Troie, avec le cheval, etc. On quitte cet âge fini, clos, pour le présent. Et là, il va rencontrer des jeunes blancs-becs, donc qui veulent épouser sa femme, qui n'ont pas connu la guerre, etc., lui étant plus vieux. Mais qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait que les massacrer. il sait pas, il connaît pas la vie normale. Donc il y a aussi un héroïsme négatif en ce sens où on se prive de sa vie de héros, mais pourquoi? Pour rien. Et à la fin, il faudra qu'il parte avec un autre voyage, avec une rame, et il ira dans un pays où quand les gens qui connaissent pas la mer disent « Ah, c'est quoi cette pelle à blé, là? C'est quoi ?» Il faudra qu'il la plante, qu'il rende un culte à Poséidon, qui était furieux contre lui, et là, il pourra rentrer définitivement chez lui et être heureux et vivre sa vie normale. Donc c'est intéressant pour Homère, la vie d'aujourd'hui, donc d'après l'âge d'Héro, ça compte pas, parce que c'est une vie de la répétition. Tandis que lui, c'est que la vie singulière. Et même quitter le monde de l'âge d'Héro, comme fait Ulysse, ça c'est un exploit, c'est un événement.
Peut-on parler de l'âge des héroïnes également? Parce que les femmes sont présentes, alors non seulement chez Homère, plus tard dans les tragédies grecques également, et à chaque fois que les personnages féminins ont un rôle important... Elle se distingue par des actes horribles qui viennent les venger, en réalité.
Alors, c'est ça. Dans Homère, les femmes sont extrêmement présentes, oui, donc, puisque c'est bien, tout tourne autour de Hélène. Alors après, la tragédie va reprendre ça. Alors, c'est tout à fait bizarre, parce qu'on est dans une société, comme on sait, de domination masculine, mais c'est pas si simple.
À l'époque déjà, vous dites ça?
Ah oui, ça c'est vraiment, bon. Mais les héros, par exemple, quand dans toute société de domination masculine, il faut que le héros soit féminin. Le héros mâle, pour être vraiment mâle, doit aussi savoir être femme. Achille a été travesti. Donc il était déguisé en femme. Sa mère ou son père a voulu le protéger de la guerre en le mettant comme femme à Scyros.
Pyrrha, c'est ça, c'est son nom.
Et il s'appelait Pyrrha, la rousse, quoi. La rouge. Mais c'est en tant que femme, d'ailleurs, qu'il a fait un enfant. Néoptolème, et il a été démasqué par Ulysse. De même, Héraclès, qui est le surmâle, qui a eu, je sais pas combien d'enfants, énormément, quoi. Eh bien, il a été femme avec Omphale, et c'était Omphale qui prenait, donc, dont il était l'esclave, qui prenait ses armes, et lui, il était au rouet d'Omphale, il était infâme. C'était comme ça que l'amour se vivait. Donc, l'homme doit savoir être femme pour être vraiment homme, pour dominer les femmes. Au théâtre, c'est un peu ça, où les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Et là, ce qu'ont fait les trois grands tragiques, c'est de rendre les femmes plus viriles que les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on renversait la domination masculine, c'est-à-dire que simplement on mettait des femmes dans le rôle dominant. Antigone, Clytemnestre, etc., Électre, et donc qui sont Alceste, Hécube, qui sont Médée, toutes ces femmes qui agissent comme des hommes quand les hommes sont défaillants. Pourquoi? Parce que les hommes, eux, restent fonctionnels. Ils disent « je veux être un bon roi, je veux être un héros, je veux remplir mon programme social ». Et les femmes qui sont toujours des déplacées ou des brimées ou des trompées, les femmes acquièrent par là la possibilité de se révolter. Donc elles deviennent héroïques. Elles sont pas héroïques.
Par des actes monstrueux,
par
quand
des
même.
Actes monstrueux.
Que ce soit Médée qui tue ses propres enfants, Clytemnestre qui assassine tout le monde.
Oui, ça c'est. Alors c'est à dire qu'elles font. Alors pourquoi? C'est parce que à chaque fois l'ordre masculin ne marche pas. C'est-à-dire que pourquoi Clytemnestre tue Agamemnon? Enfin là, il y a plusieurs hypothèses. Hein, c'était débattu par les anciens. Bon, c'est sûr, c'est qu'elle tue
la
son mari.
La plus probable, c'est qu'Agamemnon ait sacrifié leur fille.
Alors voilà. Ou bien c'est parce qu'elle était amoureuse de son amant, donc Égiste. Bon, ça c'est. On peut dire ça, mais surtout c'est parce que Agamemnon a sacrifié leur fille. Et donc, c'est un crime. Or, qui pouvait juger ce crime? Ben, c'est le roi, c'est-à-dire c'est Agamemnon lui-même. Donc là, il était juge et parti. Donc il n'y avait plus de justice. Et dans Échille, ce qui est absolument extraordinaire, Clytemnestre tue parce qu'il n'y a plus de justice. Et elle-même, elle tue quoi? Elle tue celui qui, comme elle dit, qui a tué la douleur de son accouchement. C'est-à-dire Iphigénie. Donc c'est vraiment au nom de l'existence de mère qu'elle tue son homme, et d'ailleurs elle le tue dans la Galion d'Échille, c'est très beau, dans une scène érotique de bain, et on a une espèce d'orgasme comme ça, fabuleux, donc dans le moment où elle l'égorge. Donc c'est vraiment, elle le tue comme le procréateur qu'il n'est plus en tuant sa fille. Et ça c'est au début on dit qu'elle a une volonté d'homme, effectivement elle a pris la place du roi qui s'est nié lui-même en tuant sa fille. Parce qu'il a tué sa lignée par là, etc. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ces femmes tragiques, ce sont ces femmes qui vivent la singularité. Donc, c'est pas fonctionnel. C'est pas simplement la vengeance, comme on a dit trop souvent, la justice, etc. Non, c'est faire que l'existence la plus immédiate, c'est-à-dire ça, c'est l'existence de la procréation pour qu'il t'en de la famille, quoi, devienne quelque chose qui soit comme un événement, reprennent toute sa force. Et pour ça, c'est pour ça qu'on fait des actes monstrueux. Et Médée, c'est un peu pareil. Alors, c'est sans doute Euripide qui a inventé le meurtre des enfants. D'après la légende, ce sont les Corinthiens qui, parce que comme Médée a tué le roi, la fille du roi, etc., bon, donc il se serait vengé. Donc Euripide, sans doute, mais ça, on ne sait pas bien, c'est lui qui a inventé l'infanticide. Et pourquoi elle fait ça? C'est une vengeance, parce que Jason, c'est un grec normal.
Médée tombe amoureuse de Jason, qui lui-même en aime une autre, et Médée, pour se venger, va tuer les enfants qu'elle a eus de Jason.
Oui. Ben oui,
dans l'espoir de récupérer, c'est l'amour de Jason.
Alors peut-être pas, c'est que c'est en fait Médée, c'est une déesse. Faut voir que dans la pièce de Euripide, le destin, c'est elle, parce qu'elle est petite fille du soleil. Et donc en fait, elle déesse ou quasi déesse, elle se tourne vers un mortel. Donc là, c'est une espèce, c'est le désir, donc dans toute sa force, donc elle peut aimer ce qui est même contraire à elle, c'est-à-dire un mortel. Et donc ils font une famille, mais lui, Jason, il veut être un héros parce qu'il a pris la toison d'or. Bon, donc normalement, il doit devenir roi. Or, il n'y arrive pas. Donc, il épouse, en deuxième noce, la fille du roi du coin, là, du roi de Corinthe. Et Médée, évidemment, est pas contente. C'est-à-dire, alors lui, il lui explique, mais pour un Athénien, tous les arguments de Jason, qui nous paraissent grotesques, sont des arguments de bon sens. Il dit, je vais te donner une autre famille plus grande, protéger nos enfants, tout ça. Donc, bon. C'est du bon sens. Je veux être roi. Et elle, ce qu'elle fait, elle se venge pas seulement, elle détruit tout le monde de Jason. Dont ses propres, donc c'est irrémédiable. C'est au-delà de la vengeance.
On va écouter le monologue, la tirade de Médée, dans votre traduction, Pierre Judet de Lacombe, mise en scène à Avignon par Jean Lassalle en 2001, avec Isabelle Huppert dans le rôle de Médée.
Mes amis, la chose est décidée. Le plus vite possible. Je tue mes enfants et m'en vais de ce pays, je ne veux pas si j'attends. Laissez mes petits se faire égorger par une main ennemie. Tous les obligent à mourir. Et puisqu'ils le font, nous tuerons nous qui avons fait naître. Prends les armes, mon cœur. Pourquoi tarder à faire le crime terrible et nécessaire? Dépêche-toi, ma pauvre main. Saisis l'épée, saisis, là. Va vers le but lugubre de ta vie. Ne perds pas ton courage. Ne te rappelle pas que les enfants sont ceux que tu aimes le plus. Que tu les as fait naître. Oublie tes fils. Pendant la petite durée de ce jour. Puis pleure. Car même si tu les tues, ce sont tes amours. Et je suis une femme qui n'a pas de chance.
Je suis une femme qui n'a pas de chance, dit Isabelle Huppert. Je précise immédiatement que la mise en scène de l'extrait que vous venez d'entendre, la pièce de théâtre, était par Jacques Lassalle, évidemment, non pas Jean Lassalle, comme je l'ai dit. Quel moment, Pierre Judet de Lacombe, d'une intensité inouïe.
Oui, là, c'est très fort. Bon, ça, donc la traduction avec Myrto Gondika, ça a voulu donc être sentimental, comme l'est le texte de Euripide. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est qu'elle pleure. Il y a de la tristesse, donc on pourrait dire, oui, c'est pas le tragique, ça, c'est pas l'héroïne qui adhère à son destin. Précisément, c'est que, comme le destin, c'est elle qui le fait, qui décide cette mort pour anéantir tout, dont elle-même, donc c'est une espèce de suicide aussi, sauf qu'après elle va se sauver, comme Médée se sauve d'habitude. Mais je veux dire, donc c'est paradoxalement un acte qui est de l'ordre du destin qu'on impose, de la loi. Il faut arrêter la vie de Jason et donc tout détruire, qui crée l'intériorité, qui crée le sentiment. Et ça, c'est une, on peut dire que Euripide a exploré ça. Ce qu'on lui a reproché d'être trop sentimental, mais précisément pas. C'est parce que le destin se réalise et même voulu par les personnages que du coup, il y a ce débordement d'affect, de tristesse et de, bon, ce qui ensuite a donné la poésie qu'on a, la poésie hellénistique, la poésie de sentiment, etc. Ça, c'est une vraie découverte d'Euripide. Que plus on va du côté des dieux, de la dureté tragique, plus on va justement vers l'expression de la finitude. Non, c'est du fait d'être désemparé. Ça, je crois que ça, c'est une invention d'Euripide magnifique. C'est pas du tout un affaiblissement de la tragédie. Au contraire, ça en démultiplie. C'est comme une explosion de la tragédie. Et Isabelle Huppert a su rendre ça. C'est-à-dire, elle a pas dit ça sur un mot tragique, mais vraiment comme une femme qui n'a pas de chance. C'est-à-dire, c'est la phrase de la banalité la plus grande. Alors que c'est une histoire fabuleuse. Mais simplement, elle a pas de chance.
Mais donc l'héroïsme de Médée viendrait dans le fait de s'imposer son propre destin, de choisir son destin.
Exactement. C'est-à-dire qu'elle ne transige pas. De même qu'elle a pas transigé, donc elle a tué son frère pour pouvoir donc partir avec Jason, etc. Elle ne transige pas, et là non plus, elle ne transige pas. Mais le paradoxe, c'est qu'en étant divine dans cette violence, elle devient véritablement plus que humaine, quoi. Et donc les sentiments humains d'horreur peuvent se dire. Alors que si c'était les Corinthiens.
Mais plus que humaine, c'est difficile à entendre, parce qu'elle devient monstrueuse.
Elle, alors, tue elle tout est monde, monstrueuse, mais elle est défaite. Mais non, mais parce qu'il n'y a aucune morale dans la tragédie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre modèle sur Médée, ni sur Antigone, etc. Ce sont des êtres excessifs. Bon. Et le personnage tragique, c'est Jason, c'est pas Médée. Médée, c'est la divinité, là. Et après, elle va être sauvée par les dieux dans un char, conduit par un dragon, etc., pour aller faire du mal ailleurs, à Athènes. Bon. Et mais justement, c'est-à-dire que c'est comme Achille, c'est plus on est du côté du destin, bon, et là, sauf que là, c'est elle qui le fait, plus du coup, le désarroi humain, peut trouver son expression.
Le désarroi humain.
Le désarroi humain. Oui, c'est pas une force. Faut pas, surtout pas jouer Médée comme si c'était une Érinie, comme si c'était une puissance démoniaque. Précisément pas. Elle sait prendre tous les langages humains.
Les héros qui côtoient les méchants, Heroes and Villains, c'est les Beach Boys qui le chantent. I've been in this town so long and back in the city. I've been taken for lost and gone and unknown for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl. And Indian home, full of the heroes and villains. Once at night, Cotillion Square delight, and she was right in the rain of the bullets that eventually brought her down. But she's still dancing in the night, unafraid of what a doodle-doo in a town full of heroes and villains. Un grand merci à vous, Pierre Judet de Lacombe, d'être venu nous parler de héros antiques et tragiques.
Merci à vous.
À ce micro, aujourd'hui, je renvoie au livre sur Homère qu'on trouve de vous dans les biographies chez Folio, chez Gallimard. Être Achille ou Ulysse, on le trouve également dans les petites conférences publiées par Bayard. Et puis, je précise que vous êtes en train de traduire Homère, je l'ai dit. On a hâte de vous lire, c'est prévu pour bientôt, à l'automne.
Presque bientôt.
Presque bientôt. Bon, vous viendrez en parler à ce micro. On n'a encore jamais consacré une série entière à l'Iliade ni à l'Odyssée, donc ce sera l'occasion de le faire. On vous attend. Dépêchez-vous, cela dit. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie avec un micro qui fonctionne pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous nous parlez d'un ouvrage collectif sur la laideur.
Oui, c'est un sujet qui attire l'attention en fait. Oui, la laideur peut attirer bizarrement le repoussant, le dégoûtant, le moche à ses qualités, tout comme le beau, le joli ou l'agréable. Mais pourquoi? Pourquoi le laid qui donc repousse et dégoûte peut-il nous attirer? Mais pourquoi bizarrement encore n'a-t-il pas plus attiré les philosophes? C'est une bonne manière d'entrer dans le sujet. Pourquoi ne pas s'être intéressé un peu plus à la laideur pour mieux comprendre ce qu'est une expérience esthétique?
Chers confrères, j'ai dans ma profession été souvent confronté à de multiples difformités de la face, accidentelles ou congénitales. J'ai vu des mutilations et des malformations du corps de toutes sortes. Mais je n'ai encore jamais vu une malformation et une dégradation aussi totale chez un être humain. J'aimerais attirer votre attention sur le caractère insidieux du mal qui affecte notre patient, vous voyez bien. Notez, je vous prie, l'extrême hypertrophie du crâne, l'invalidité complète du bras droit, et la cambrure inquiétante de la colonne vertébrale.
Qu'est-ce que le lait ? Eh bien, pour le savoir, autant commencer par son contraire, le beau. Ainsi, si on se penche sur l'histoire de l'art, chez les antiques, le beau est l'harmonie des formes et des proportions. Puis, chez Kant, il est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Et enfin, le beau relève des beaux-arts. Je renvoie ici à Hegel et à l'idée que le beau est une finalité de l'art. Appliquant cela au lait et en inversant les choses, on pourrait alors dire que le lait est le difforme, qu'il est l'objet d'une insatisfaction désintéressée ou encore qu'il n'est jamais artistique. Et pourtant, non, ça ne marche pas du tout. Non, le lait n'est pas le difforme. Il existe des choses très proportionnées et très laides. Une voiture, par exemple, on pourrait y revenir. Non, le lait n'est pas l'objet d'une insatisfaction désintéressée, car une insatisfaction est rarement désintéressée, enfin, selon moi. Et non, le lait peut être le but de l'art, en témoigne l'histoire de l'art. Voilà donc l'hypothèse. Et si la laideur n'était pas l'envers de la beauté, mais une catégorie de la beauté, ou en tout cas, une partie de l'expérience esthétique.
Est-ce que vous pouvez avoir des rapports d'amitié avec quelqu'un que vous trouvez laid ?
Mais la laideur et la beauté, ça n'intervient pas dans mon amitié. Si j'ai de l'amitié pour quelqu'un, je ne le vois ni beau ni laid.
De l'amitié, on n'en a pas dans les 5 minutes. Il faut se revoir plusieurs fois, non ? Comment vous faites pour voir plusieurs fois une personne que vous trouvez laide ? Moi, je prends la fuite. C'est pas possible.
Il n'est pas question de laideur. Dans la multitude des gens qui sont beaux, moi, je me sens concernée uniquement par ceux qui ont quelque chose au-delà de leur beauté.
À écouter cet extrait de La collectionneuse de Éric Rohmer, c'est le tout début. Que nous fait le lait est sûrement la question à poser, une bien meilleure question en tout cas que qu'est-ce que le lait, calquée sur la classique interrogation qu'est-ce que le beau. Car plus que le beau qui semble parfait, lisse, impossible à commenter, quoi qu'en pense Kant, le lait, lui, ne lasse pas, il mobilise, le lait accroche, le lait délie les langues et pas que les mauvaises, et puis il marque les esprits. Oui, la laideur est comme un scandale, un affront que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes et que l'on partage. C'est donc un scandale qui attire, c'est le premier paradoxe. Puis c'est un scandale qui rapproche des autres, on le partage, c'est le deuxième paradoxe. Puis le troisième et dernier paradoxe, la laideur est un scandale qui se décline en une multiplicité d'expériences, de mots, de sensations concrètes, récurrentes, mais qui pourtant ne se recherche pas et échappe à nos mesures. Alors comment saisir ce lait que l'on est ?
Cet homme s'appelle Marcello Gandini. Il a dessiné la Lamborghini Countach. D'après vous, quelle est sa voiture personnelle ? Bien sûr, une voiture qu'il a dessinée lui-même, une Citroën BX 16 soupapes. Une Citroën BX 16 soupapes, 160 chevaux, que M. Gandini écouterait pendant des heures. Mais aujourd'hui, Marcello n'a pas besoin de toute cette cavalerie. Il se rend à son bureau. Et du moment que c'est en BX... Citroën BX, la route maîtrisée.
L'ouvrage collectif dont part toute cette réflexion sur la laideur développe ses idées d'un lait qui n'est pas l'envers de la beauté, d'une laideur qui n'a rien du beau désintéressé, mais se vit physiquement, concrètement et quotidiennement, comme une voiture que l'on prend tous les jours. Toute la fin de l'ouvrage est en effet consacrée à la laideur du design automobile. Pourquoi pas d'ailleurs, car s'il y a bien un objet ordinaire, proportionné, pensé, et pourtant potentiellement laid, c'est bien une voiture. Alors à quoi tient sa laideur ? Bien à une esthétique que l'on a en tête et à laquelle telle voiture ne correspond pourtant pas. Quoi qu'on en pense, et même par défaut, la laideur a ainsi tout d'une expérience esthétique.
Eh bien, voilà des idées de semaine pour la rentrée. L'Iliade, l'Odyssée, la laideur et les belles voitures.
Ah ben la laideur, oui.
Donc Géraldine, ce livre sur la laideur, c'est le titre du livre.
Voilà, qui est sous la direction, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Bertrand Névin et c'est paru aux éditions Complicité.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Isis Jourda, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard à la réalisation, YouTube Diego Aclopès à la prise de son, Nicole Garcia à la lecture des textes. On se retrouve demain pour cette série sur l'héroïsme. Demain, nous parlerons du Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, le héros de l'ombre et du panache en compagnie de Mathieu Omesser. D'ici là, pour réécouter cette émission sur les héros chez Homère et dans l'Antiquité avec Pierre Judet de la Combe, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez écouter chaque émission en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.